On est justement en train de faire une étude sur la recherche de Dieu dans notre vie. Il faut apprendre à rechercher Dieu. Il faut apprendre, puis même plus que dire « je le recherche », c'est que notre cœur, il faut qu'il soit disposé à vouloir le chercher. Des fois, on peut vivre nos vies, nos journées tout entières, puis on a de la misère à prendre du temps avec le Seigneur, on a de la misère à prier, on a de la misère à chanter des chants au Seigneur, on a de la misère à lire sa parole, on a de la misère dans nos combats. Mais Dieu veut qu'on aille à lui, malgré toutes nos misères, puis lui faire confiance, puis lui demander de l'aide, puis il va le faire. Il veut nous équiper pour qu'on soit inébranlable. C'est ce qu'il a promis de faire par sa parole, par son Saint-Esprit. Lorsqu'on se convertit, il dit, « Tout disciple accompli sera comme son maître. » On veut devenir comme Jésus, mais il y a un accomplissement, il y a un travail qui doit se faire pour se rendre là. Puis Dieu se propose de le faire dans nos vies. Il veut nous amener à être comme Jésus. Y en a-tu qui aimerait ça ressembler à Jésus? J'espère que vous voulez tous ressembler à Jésus. À deux mains. Parce que si on continue à rester comme qu'on était, on n'a pas une belle présentation dans ce monde, surtout avec tout ce comment ce qu'on était avant de venir au Seigneur. Le titre du message, c'est « Recherchez Dieu pour votre croissance dans le Seigneur ». On a à chercher Dieu pour grandir dans le Seigneur, pour qu'on devienne de plus en plus comme lui. On va parler d'un sujet matin, puis je suis sûr que plusieurs personnes vont se reconnaître là-dedans. Pourquoi notre cœur craint-il de s'approcher de Dieu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous aviez une crainte, puis que vous n'osiez pas vous approcher de Dieu, que vous ne sentiez pas digne, ou ça ne vous tentait pas du tout, mais au point de ne pas se sentir digne, puis de dire, oh, ben moi, je ne pense pas que Dieu il m'aime, puis je ne pense pas que je fais partie de la gang. Puis là, on se cherche plutôt à s'éloigner parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a de la crainte. Je pense que ça arrive à tout le monde. Surtout dans des moments spécifiques dans notre vie, vous allez le voir dans les quelques versets. Comment que ça se fait qu'après avoir accepté Jésus, on a accepté le Seigneur pour être pardonné de nos péchés, on a reçu le cadeau du Saint-Esprit, c'est un don, il nous a donné un cadeau, le Saint-Esprit, il nous a donné le Saint-Esprit, on marche avec Dieu, puis comment ça se fait que des fois, qu'il nous arrive qu'on a de la misère, puis qu'on a de la crainte, puis on n'ose pas s'approcher de Dieu le Père dans la prière, puis dans une communion de plus en plus intime. Mais il nous arrive de perdre l'assurance. Il y a comme une confiance qu'on a quand on est à Jésus, au début de notre foi. On accepte le Seigneur, on est excité, on avance dans le Seigneur. Puis là, on a une confiance, on a de l'assurance qui se bâtit dans notre cœur. Puis là, on s'approche de Dieu à chaque réunion. On prie, puis on loue le Seigneur, on retourne chez nous. On est encore en feu pour louer Dieu, prier Dieu. Puis à un moment donné, dans notre vie chrétienne, quand elle avance, on fait encore d'autres péchés, on réalise qu'on fait d'autres péchés, puis là, ces péchés-là commencent à miner notre assurance. On a moins d'assurance parce qu'on a réalisé qu'on avait encore des péchés dans notre vie, puis on se dit, mais là, Dieu ne doit plus m'aimer autant. Puis là, on se sent tout croche en dedans, puis on n'a plus la même assurance pour s'approcher de lui. Puis on a peur de s'approcher de lui. On n'ose pas. On pense qu'il va nous chicaner, qu'il va nous taper dessus, pareil comme quand on était petit, puis à nos parents, quand on faisait une faute. On n'osait même pas dire la vérité à nos parents de peur de se faire punir. Ça, il y en a qui ont sûrement vécu ça. Puis avec Dieu, on a un peu la même affaire. On pêche, on a commis des choses qui déplaient à Dieu, des péchés, des désobéissances. C'est surtout quand on prend conscience, plus qu'on avance dans le Seigneur, on prend conscience comment est-ce qu'on est pécheur, puis comment est-ce qu'on n'est pas beau devant Dieu, puis qu'on sent qu'on ne mérite rien. Puis là, on ressent de la culpabilité. On se sent coupable de nos péchés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pense que ça arrive à tous ceux qui ont une conscience éclairée. Lorsqu'on pêche puis que nous prenons conscience de nos péchés, il y a plusieurs sortes de réactions qu'un individu peut réagir. Il y en a des bonnes réactions puis il y en a des mauvaises. Il y a certaines personnes là, qui réagissent avec orgueil quand ils pêchent. Ils ont commis des péchés, ils peuvent même savoir qu'ils l'ont commis. Ils savent intellectuellement, mais ils réagissent avec orgueil comme si c'était rien. Puis là, ils se pensent encore justes. Là, ils parlent à Dieu dans leur prière. On voit ça dans Luc, chapitre 18, le verset 10 à 13. Il nous donne l'exemple de deux hommes qui montaient au temple pour prier. Un était pharisien, puis l'autre publicain. Le pharisien, debout, il priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je suis pas comme le reste des hommes. Ils sont ravisseurs, sont injustes, sont adultères, ou même comme, là il parle du publicain, il y avait une autre personne à côté de lui, même comme ce publicain, il dit, je jeûne deux fois par semaine, puis je donne la dîme de toutes mes revenus. Mais il y a des gens que malgré le fait qu'ils savent qu'ils sont pécheurs, ils ont encore des pensées orgueilleuses dans leur cœur. Ils sont là, puis ça se vante devant Dieu de leur exploit, puis de toutes les bonnes œuvres qu'ils peuvent faire, plutôt que d'avoir la bonne attitude. On va en parler tantôt de la bonne attitude. Mais des pensées orgueilleuses comme ça ne règlent pas le problème, puis vous allez le voir un petit peu plus loin. Si on se pense correct après avoir péché, ça va produire un effet négatif dans notre vie. Une autre réaction qu'on va voir, parce qu'on fera la conclusion après, c'est l'exemple de réagir comme Adam et Ève. Quand ils ont pris conscience qu'ils avaient péché, qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Comment est-ce qu'ils ont réagi dans Genèse 3, les versets 8 à 10? Ça nous dit qu'après qu'ils aient péché, ils ont entendu la voix de l'Éternel qui les appelait. Comme d'habitude, ils étaient invités de retrouver Dieu puis d'aller dialoguer avec lui. Là, ça dit que Dieu parcourait le jardin vers le soir, puis l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Leur réaction à eux, après avoir réalisé qu'ils étaient dans le péché, ils ne se pensaient pas meilleurs que les autres. Eux autres, leur réaction, c'est qu'ils se sont cachés. Ils sont cachés au milieu des arbres du jardin. Puis là, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voyez-vous, une autre manière qu'on peut s'exposer devant Dieu, une fois qu'on a commis des péchés, une autre manière qui n'est pas la meilleure manière de se présenter devant Dieu, c'est de se cacher une fois qu'on a commis des péchés. Dieu, il sait qu'on en fait des péchés, puis il n'y en a pas un chrétien sur la terre qui est parfait. Mais dans les deux attitudes qu'on vient de voir, de l'homme que lui se pensait qu'il est encore juste, puis il n'a pas besoin de s'excuser ou demander pardon à Dieu, ou l'autre, il a péché, puis quand il a réalisé qu'il était dans le péché, il est allé se cacher, puis il avait peur de retourner à Dieu. Ces deux approches, deux réactions que Dieu ne veut pas qu'on ait. Vous allez voir la seule qui est biblique, la seule que comment est-ce que Dieu veut qu'on réalise? C'est le publicain, dans Luc 18, les versets 13 et 14. Le publicain, lui, se tenait à distance, puis n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Lui, cette personne-là, c'est de s'humilier, d'avouer qu'il était un pécheur, puis de demander à Dieu de lui pardonner. C'était l'approche que cette personne-là a eue. Puis Jésus a répondu à cela, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre qui s'était enorgueilli. » Puis dit, « Moi, je suis pas comme les autres, puis je fais du bien, puis je paye ma dîme, puis je vais à l'église. » Puis Il dit, « Lui, celui qui s'humilie puis qui demande pardon à Dieu, il est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Dans les trois exemples que je viens de vous donner, combien est-ce qu'il y a de personnes qui ont péché dans cela? Les trois. Les trois, ils étaient dans le péché devant Dieu. Les trois désobéissaient. Mais il y avait trois manières différentes de réagir. Soit qu'on se pense, c'est pas grave, quand je suis chrétien, c'est pas grave si je fais des péchés. Puis là, on se vante, puis on demande à Dieu, je suis ci, je suis ça, je mérite ci, je mérite ça. Ou l'autre qui a commis des péchés, puis lui, il se cache, puis il a peur de Dieu, puis il n'ose plus retourner voir Dieu, puis parler à Dieu. Ça, c'est une autre approche que Dieu, il nous enseigne de ne pas regarder cette approche-là. Mais l'autre approche qui nous dit, Seigneur, c'est vrai que je suis un pécheur, je te demande de me pardonner. Mais la Bible a dit que lui, il est parti dans sa maison justifié. Pardonné, déclaré juste, parce que son cœur, il s'est humilié, il a avoué qu'il était pécheur, puis il ne s'est pas caché, il s'est présent, il savait que Dieu connaît toutes choses, puis il voit toutes choses, puis il savait même qu'il pouvait être puni par Dieu, mais il a demandé pardon, puis Dieu il a pardonné. Dans les trois situations, ils sont pécheurs, puis on est là-dedans, là, nous. On est aussi pécheurs que les autres qui sont dans le monde. On en fait régulièrement des péchés. Je ne dis pas qu'on fait exprès. On combat contre le péché. On lutte contre le péché. On résiste contre le péché. Mais ça nous arrive encore de faire des choses que ce n'était pas le plan parfait de Dieu dans notre vie. Quelle attitude doit-on avoir? Quelle approche qu'on doit avoir quand on en fait? C'est ça qui fait la différence pour voir si on va grandir ou si on va croire dans le Seigneur ou on va rester comme qu'on était ou même reculer devant Dieu puis dire, moi je suis trop pécheur, je m'en vais. On doit adopter la réaction du publicain qui croyait que c'était grave faire des péchés. Mais il faut croire aussi au pardon de Dieu. Dieu aime pardonner, il est miséricordieux, il est compatissant. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. Il faut croire que quand on fait des fautes devant Dieu, que si on lui demande pardon, Dieu va nous accueillir puis il va nous pardonner. Croyons-nous que Dieu voulait juste pardonner nos péchés quand on vient à Jésus? Non, parce que même dans notre cheminement, Dieu savait qu'on en ferait encore des péchés, mais il nous a acceptés quand même dans sa famille. On est ses enfants. Il nous a pardonné quand on est venu à Jésus, qu'on a demandé pardon. Puis dans tout le cheminement, Dieu il est prêt à nous pardonner à chaque péché qu'on fait, en autant qu'on a la bonne attitude. Amen. Si on se pense qu'on est bon, puis qu'on mérite tout, puis qu'on fait rien de grave, c'est pas la bonne attitude. On demeure dans notre état de péché. Ça nous dit dans le passage que celui qui s'est humilié et qui a avoué son tort, lui, il a été justifié, pas l'autre. Dans 1 Jean 1,9, ça nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Si on l'avoue que nous sommes pécheurs, on lui demande pardon, il est fidèle et juste. Dieu n'est pas infidèle et injuste. Pourquoi qu'il n'est pas injuste? Parce que Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Puis il a déclaré que par le sacrifice de Jésus, il pardonnait nos péchés quand on est arrivé à lui, puis à chaque fois aussi qu'on va le confesser, il va nous pardonner. Dieu, il n'est pas menteur. S'il l'a promis, il veut le faire. Il veut nous pardonner. Est-ce que vous croyez au pardon de Dieu?
Oui.
C'est important. Le publicain, quand lui il s'est humilié, il savait que Dieu était pour le pardonner. Il avait confiance. Il a pris la bonne attitude. Il a avoué qu'il était pécheur. Il a demandé pardon, puis Dieu lui a pardonné. Ceux qui n'osent pas parler de leur péché à Dieu, ils n'avancent pas dans leur vie chrétienne. Il y a un verset dans l'Ancien qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Il faut mettre devant Dieu notre état réel. Il faut s'avouer comme qu'on est. Est-ce que Dieu voit tout ce qu'on fait?
Oui.
Est-ce qu'il entend tout ce qu'on pense, qu'on dit? Est-ce qu'il est témoin de tout comment ce qu'on a vécu envers notre prochain, envers notre épouse, envers notre mari, envers nos enfants puis nos parents, notre attitude, nos comportements? Dieu voit tout, il sait tout, il entend tout. On peut rien lui cacher. Moi, je peux avoir honte puis chercher à me cacher. Mais c'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on l'avoue, notre état. Puis quand qu'on commence à l'avouer, puis qu'on commence à lui remettre entre ses mains, il savait déjà, mais il a choisi de faire le plan qu'il faut que je lui confesse. Seigneur, c'est vrai que j'ai tel problème dans ma vie. Je te l'avoue, je suis pas capable, j'ai besoin d'aide. Puis si tu es dans ce chemin-là, là, Dieu va pouvoir intervenir. Contrairement à celui qui dit, moi, je fais rien de mal, moi, je suis bon, je suis fin, puis je paye ma dîme, puis je suis un bon chrétien. On n'avancera pas, parce qu'on n'avoue pas. L'important, c'est pas de fuir, mais de demeurer en Jésus. Quand je suis allé à Jésus, c'était pourquoi la première chose pourquoi je suis allé à Jésus, c'était pour être pardonné de mes péchés. Parce que je réalisais que j'étais pécheur, puis que j'étais perdu, puis que Jésus t'a mort sur la croix pour payer pour la dette de mes péchés. Il est le seul sacrifice offert à Dieu que Dieu accepte pour le pardon, puis nous purifier de toute iniquité. Pas juste nous pardonner, il veut nous libérer, nous rendre purs de nos péchés. Fait que c'est le seul sacrifice acceptable devant Dieu. Fait que quand j'étais à Dieu la première fois, c'était dans le but pour être pardonné. J'ai été à Jésus pour être pardonné. Puis après ça, dans ma vie chrétienne, quand j'en fais d'autres, où vous pensez qu'il faut que j'aille? Si j'en fais encore, faut que je reste en Jésus, faut que je reste à aller à lui, puis encore me présenter, je mérite rien, Seigneur, mais c'est à cause des mérites de Jésus que je te demande de m'aider. Fait que je demande des choses à Dieu le Père dans le nom de Jésus. Parce que Jésus lui a les mérites, pas moi. La Bible nous dit dans 1 Jean 2:28, maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Demeurez en Jésus. Les chrétiens sont exhortés dans ce verset-là à demeurer en Jésus. Gardez toujours votre contact avec Jésus. Référez-vous toujours au Seigneur pour le pardon de vos péchés premièrement. Puis maintenez le contact avec lui. Mais il dit, petits enfants, demeurez en lui afin lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Au début, j'ai dit, comment que ça se fait des fois, on n'a plus cette assurance-là pour se présenter à Dieu. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a nuit, puis qui a miné notre assurance, puis là, on n'a plus d'assurance. On a même peur, on a des craintes de s'approcher de Dieu, mais parce qu'il y a des péchés non confessés. Souvent, c'est ça qui s'est passé. Il y a des choses qu'on a laissées dans notre vie, puis qu'on peut-être qu'on traîne depuis longtemps, puis qu'on continue à faire des choses qui déplaisent à Dieu, puis à un moment donné, il faut retourner à Dieu en passant par Jésus puis lui disant, Seigneur, je suis pécheur, j'ai besoin que tu me pardonnes, tu me purifies, puis t'enlèves tout ça. Dans ce verset-là, ça nous dit, demeurez en lui afin que vous ayez de l'assurance. Ça se peut que je sois plus connecté avec Jésus, puis que j'aie perdu cette assurance-là. Il est important, quand on est chrétien, de rester connecté avec Jésus, puis là, son Esprit Saint va nous remplir d'assurance, puis on va avoir de la confiance. Quand Jésus va revenir, on va être convaincu qu'on est encore avec lui. Je vous pose la question aujourd'hui, avez-vous cette assurance-là que Jésus a tout pardonné vos péchés, puis que vous êtes en contact avec lui? Puis, mettons que ça arrive à soi et Jésus revient. Avez-vous cette assurance-là que vous êtes sauvé, puis que vous avez la vie éternelle, puis que vous êtes ouvert à dire, viens Seigneur, dépêche-toi, je veux que ça se passe, là je suis prête. Vous sentez-vous prête ou vous avez perdu cette assurance-là, puis je dis, non, attends un peu Seigneur, pas tout de suite, j'ai encore des choses à régler. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut demeurer en Jésus pour que l'assurance demeure en nous. C'est suite à notre communion avec Jésus qui va faire que notre assurance va grandir en nous, puis on va être plein de confiance que si même Jésus revient ce soir, je m'en vais avec.
Amen.
Y en a-tu ici qui ont cette assurance-là?
Amen.
Puis il faut pas penser qu'on peut grandir dans le Seigneur sans le Seigneur. Parce que le but du message, c'est rechercher Dieu pour votre croissance dans le Seigneur. Mais il faut pas penser que je peux rechercher Dieu ou être en communion avec Dieu ou même que je grandis dans le Seigneur sans passer par le Seigneur. Impossible. Jésus, dans Jean 15, 5, nous dit, je suis le cèpe. Jésus, c'est le cèpe. Puis le cèpe, là, mais c'est ce qu'il y a de plus principal au plan de la vigne. C'est la base du plan de la vigne. Ce que les racines sont connectées au cèpe, puis après ça, c'est les branches et les sarments. C'est dans les sarments que poussent les raisins. Puis les sarments sont greffés au cèpe. Le cèpe, c'est le pied de la vigne. Jésus dit, je suis le cèpe. Et il dit, vous, vous êtes les sarments. Nous sommes les branches qui sont connectées à ce cèpe-là. Il dit, celui qui demeure en moi, connecté, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire qu'il est important, quand tu es chrétien, de rester connecté à Jésus. Autant que tu étais à Jésus pour être pardonné, toute ta vie, va falloir que tu restes connecté si tu veux te maintenir dans l'assurance de ton salut. Puis tu pourras même produire aucun fruit si tu ne restes pas connecté. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Fait qu'en tant que chrétien, il faut qu'un chrétien réalise qu'à chaque jour, on doit demeurer dans la connexion avec Jésus. Comment que ça marche? Premièrement, il ne faut pas qu'il y ait rien qui me déconnecte. Qu'est-ce qui nous déconnecte? C'est nos péchés. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Dieu, ce verset-là, là, c'était adressé à des Juifs qui étaient le peuple de Dieu. Puis ils vivaient dans toutes sortes de péchés, puis Dieu était pas avec eux. Pourquoi? Parce que le péché mettait une séparation. Mais dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Si un chrétien fait des péchés, puis il sait consciemment, il peut pas avoir l'assurance qu'il est connecté avec Jésus. C'est sûr que ses péchés vont miner son contact, puis il sent un petit peu loin de Dieu. Puis quand Dieu se promène, puis il aimerait nous dire, viens à moi, oh là, je suis pas digne, j'ai peur, j'ai de la crainte, j'ai pas l'assurance, j'ai pas de confiance, je suis en contact, puis là, je vais tout de suite en courant. On va sentir qu'on a peur, on a des craintes, puis on se sent loin. Mais il est important pour demeurer en contact avec Jésus qu'à chaque jour, on fasse le point. Qu'on regarde, y a-tu des choses dans ma vie qui peut déplaire à Dieu? Puis on demande pardon pour nos péchés. Puis on demande de nous restaurer, de nous remplir de son Saint-Esprit. Puis là, tu vas vivre des moments avec le Seigneur, de te sentir rempli de sa communion, puis tu vas avoir une assurance qui va naître en toi. C'est pas à cause qu'un pasteur s'appelle Billy Graham que lui est exempt de cela. Pas du tout. Peu importe qui nous sommes sur la terre, nous avons à demeurer dans ce contact-là avec Jésus. C'est lorsqu'on est dans ce contact-là qu'on a demandé pardon, qu'on est pardonné, purifié par le sang de Jésus. Là, on est rempli du Saint-Esprit, puis là, on a la confiance, l'assurance qu'on est sauvé. Dieu connaît notre état. Puis il a déjà prévu le sacrifice de son Fils afin non seulement de nous sauver, mais de nous donner toutes choses avec lui. Il connaît notre état. Il sait qu'on est sujet à la faiblesse. Moi-même, je suis témoin que j'en ai fait une fois après que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'en ai fait d'autres péchés. Puis si je vous pose la question, en avez-vous fait d'autres péchés dans votre vie après avoir été chrétien? Oui, vous en avez fait d'autres. Est-ce que Dieu savait que vous en feriez d'autres?
Oui.
Y a-t-il un humain sur la terre qui n'a pas fait d'autres après s'avoir converti? Aucun. Tout le monde n'a fait d'autres. Puis même dans Jean, ça dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, puis sa parole est pas en nous. Ça veut dire, faut l'avouer, on en fait d'autres. Je suis pardonné, oui. Mais si je veux maintenir mon contact avec lui, il faut que je sois à jour. Il faut que je les confesse, mes péchés, pour pas laisser rien me séparer. Mais Dieu le savait d'avance qu'on le ferait. Puis quand il a envoyé son Fils, c'était pour nous pardonner de nos péchés, mais il voulait pas juste ça. Il voulait nous donner toutes ses promesses. Dans Romains 8, 31, ça nous dit, jusqu'à 34, Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Jésus a été livré pour nous tous, pour qu'on puisse être pardonné et devenir des enfants de Dieu. Lui qui a livré son Fils pour nous tous, pour qu'on puisse être pardonné. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Fait qu'il veut plus que nous pardonner. Il veut nous donner toute chose avec Jésus. Le Saint-Esprit, il veut nous donner le Saint-Esprit, puis on l'a reçu quand on s'est converti. Il veut nous donner ses promesses pour la vie terrestre. Il y a plein de promesses que Dieu a faites pour la vie terrestre. Il veut nous donner aussi ses promesses pour la vie céleste. Il savait qu'on en fera d'autres péchés, mais il veut nous donner quand même toutes choses avec lui. Puis si on a cette espérance, on dit, Seigneur, je veux tout que tu as me donné. Mais si tu as cette assurance-là, puis tu as soif, puis tu en veux, bien, tout est pour toi. Dieu veut tout te donner, malgré que tu as fait d'autres péchés après que tu aies accepté Jésus. Son sacrifice à Jésus pardonne tes péchés quand tu arrives à Jésus, puis il est encore aussi efficace pour pardonner tous les autres péchés que tu vas faire, puis il veut plus que te les pardonner, il veut te purifier. Te purifier, ça veut dire rendre pur. Il va l'enlever, ce péché-là, il va le déraciner de ta vie, il va te délivrer. Je vais en parler dans d'autres semaines à ce niveau-là. Puis après ça, quand tu as passé par Jésus pour être pardonné, il dit, qui va accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si vous demeurez avec Dieu puis avec son Fils Jésus, vous êtes assuré de posséder tout ce qu'il vous a promis dans la parole, pour les choses présentes puis les choses à venir. Laissez pas le péché vous faire perdre votre assurance, votre confiance en Dieu. Laissez pas le péché vous miner votre vie au point que vous sentiez que vous êtes loin de Dieu. Si vous vous sentez de même, loin de Dieu, puis vous avez peur, vous avez des craintes, puis tout, mais demandez pardon à Dieu. Faites le ménage dans votre vie. Dites au Seigneur, j'ai telle affaire dans ma vie. Dieu le sait déjà. Vous n'y apprendrez rien. Mais au moins, vous allez être honnête avec lui. Puis c'est en confessant nos péchés, Dieu nous pardonne. Il nous purifie de toute iniquité. Puis il nous invite à s'approcher de lui avec confiance. Fuyons pas. Cachons-nous pas, approchons-nous de lui avec confiance. Dans Éphésiens 3:12, ça dit, « En qui nous avons, par la foi en lui, en Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ayez confiance que Dieu vous aime, puis que Dieu vous a pardonné. Laissez pas l'ennemi vous mettre des doutes, puis que vous dites, « Ah, toi, tu as trop péché, Dieu veut plus que tu y ailles à lui. » C'est un mensonge du diable. À cause de Jésus, on a un plein accès à rentrer dans la présence de Dieu tous les jours. Il ne s'agit que de vous, de ne pas vous laisser voler. Dieu veut vous donner toute chose à cause de Jésus. Nous sommes invités à tout prendre ce que Dieu nous donne. On va vous en nommer une pour le fun. Dans Éphésiens 6:13, ça nous dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous avez besoin d'être équipé de l'arsenal de Dieu. Une fois que vous vous êtes équipé de son bouclier, de son épée, de son casque, de son armure, vous allez être capable de combattre contre l'ennemi, puis vous allez avoir vos victoires dans vos vies. Dieu va nous rendre victorieux, mais nous avons à nous équiper par la foi et à croire que Dieu est avec nous, Dieu nous aime, le sang de Jésus me purifie, à cause que je suis un enfant de Dieu, j'ai l'autorité de pouvoir résister au diable, puis je peux le combattre, puis je ne laisserai plus me mettre des doutes ou des culpabilités ou des choses qui ne sont pas de Dieu dans ma vie pour essayer de m'éloigner. Je ne laisserai plus me tendre des pièges pour que je tombe dans des situations qui m'éloignent de Dieu. Je vais combattre, je vais résister. Le chrétien doit réaliser que tout est là. Tout est là pour que je marche dans la victoire dans ma vie, puis que je demeure en communion avec Jésus. Dieu nous a déjà donné tout ce qui était nécessaire pour avancer dans le Seigneur. On voit ça dans 2 Pierre 1, 3. Ça nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui était nécessaire pour notre vie spirituelle, puis de marcher dans la piété, pour être des personnes pieuses, des gens qui prient, qui louent leur Dieu, qui marchent en contact avec Dieu. Des personnes pieuses, c'est des personnes qui marchent avec Dieu. C'est ça, des personnes pieuses, qui prient leur Dieu, qui louent leur Dieu, qui servent leur Dieu. C'est ça, des personnes pieuses. Dieu a déjà donné tout ce qui était nécessaire pour qu'on marche dans la vie spirituelle de Dieu, puis qu'on soit des personnes pieuses. Tout est déjà accompli. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il l'a dit, tout est accompli. Toutes les promesses de l'Ancien Testament étaient accomplies, puis tout ce qui était nécessaire pour le salut, il était accompli. Tout ce qui était nécessaire pour que les élus puissent rentrer dans la vie éternelle, tout est accompli, tout est déjà là. Tous les outils, l'arsenal de Dieu, les armes de Dieu, toutes les promesses de Dieu, toutes ces bénédictions sont déjà toutes là. Il dit comment, lui qui a délivré son Fils pour qu'on puisse être sauvé, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Puis ça fait partie des choses les plus importantes qu'un chrétien doit saisir. Les toutes choses, c'est toutes ses promesses, son armement, pour que je puisse me revêtir, puis commencer à combattre contre l'ennemi, puis gagner mes victoires, puis que je puisse demeurer en Jésus. Dieu veut continuer la sanctification de ses enfants imparfaits. Le mot sanctification, là, quand on est arrivé à Jésus, il nous a déclaré saints. À partir du moment que tu as reçu Jésus, même si tu étais le plus pire pourri sur la terre, le plus pire criminel, tu viens à Jésus repentant, tu demandes pardon, mais il te pardonne. Le sang de Jésus te purifie, puis là, il dit de toi, tu es un juste, tu es un saint, tu es déclaré saint, tu es rendu une personne sacrée. Un jour, tu vas faire partie des gens qui sont dans le ciel, tu vas être un concitoyen des saints, des gens de la maison de Dieu. Tu es déclaré saint, mais à partir de ce moment-là, Dieu commence un travail de sanctification. Il t'a déclaré saint, mais là, il veut te purifier dans ta vie. Il va enlever de ta vie ce qui n'est pas bon. Il veut t'émonder. Y en as-tu des affaires à enlever dans notre vie? Je pense que oui. Il y en a une couple. Il y en a peut-être pas mal. Il y a de l'ouvrage à faire. Dieu, il y a de l'ouvrage à faire. Nous aussi, on travaille avec Dieu dans notre travail de sanctification. Il savait qu'on est des gens imparfaits, puis il savait qu'il y aurait ce travail-là à faire. Fait que quand on pêche, on n'apprend rien à Dieu. Il voyait d'avance dans son plan qu'on en fera d'autres. Mais il veut nous en sortir. Il veut nous libérer de tout ce qui nous nuit dans notre vie. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, ça nous dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Ça veut dire, ces gens-là, les chrétiens de Thessalonique, étaient déjà déclarés des saints quand ils ont accepté Jésus, mais ça dit que ce Dieu-là vous sanctifie lui-même. Ça veut dire qu'il y a un travail de sanctification à faire. Ce Dieu-là veut entreprendre le changement dans ma vie puis dans vos vies. On est venu à Jésus, on est pardonné, il veut plus que nous pardonner, il veut nous purifier, nous libérer, nous sanctifier. Là, il dit que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. Fait que ce travail-là, Ce que je veux en venir surtout, c'est qu'on ne cache rien à Dieu. Dieu savait qu'on en ferait. Il a vu qu'on l'a fait. Il faut l'avouer. Je veux grandir dans le Seigneur. Il faut que je passe par Jésus encore. Il faut que je demeure avec lui. Puis je lui demande pardon pour mes autres péchés que je fais, afin que je demeure toujours avec lui. Il ne faut pas que je laisse rien rentrer dans ma vie qui va me séparer. Puis là, après ça, Dieu va continuer à nous révéler sa parole. Il va nous donner sa sagesse. Il va nous donner sa connaissance. Dieu va continuer à nous bénir de tout ce qu'on a besoin d'être équipé pour continuer à marcher d'une manière de plus en plus pure, pour arriver à devenir comme Jésus. Il veut nous amener à ressembler à Jésus. Jésus, c'est l'image de Dieu, l'empreinte de sa personne. C'est l'image qu'il faut aller retrouver. On l'a tous perdu, ça. Quand on était avant de venir à Jésus, on n'était plus à l'image de Jésus. On était à l'image de nos parents qui étaient autant pécheurs que nous, puis on était à l'image de l'ensemble de l'humanité qui est autour de nous. Mais on vient à Jésus pour que le changement commence puis qu'il nous amène à être comme lui, à devenir comme lui. Il faut s'attacher à notre chef, Jésus, parce que c'est de lui qu'on tire notre accroissement. Si on va grandir dans le Seigneur, c'est à cause qu'on reste connecté à Jésus. Puis dans l'Église, il communique des forces dans l'Église. C'est ce que ça nous dit dans le prochain verset. Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, communique à l'ensemble de l'Église une force que tous ensemble, on devient connectés les uns aux autres. Puis là, on grandit tous ensemble dans le Seigneur. Ça nous dit cela dans Colossiens 2, 19. Tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Vous voulez que Dieu change votre vie? C'est en étant connecté dans l'Église avec d'autres frères et sœurs. On tire notre accroissement les uns des autres, puis Dieu communique, Dieu donne la force, puis le travail nécessaire, les dons nécessaires pour que tous ensemble, on grandisse dans le Seigneur. C'est grâce à Dieu que nous deviendrons victorieux. La vraie victoire, c'est, elle va être finale et accomplie lorsqu'on sera les deux pieds dans le ressuscité, dans le royaume céleste. En attendant, on a des luttes, des combats à combattre contre l'ennemi, combattre contre le monde, combattre contre notre chair. On a des combats, on a allé chercher l'armement de Dieu, puis là on avance tous ensemble, puis Dieu nous équipe, puis nous donne de la force à un par l'autre, puis ensemble on est une équipe que Dieu va emmener dans la victoire. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va nous amener dans la victoire. Sans moi, vous pouvez rien faire, que dit Jésus. Fait que c'est Jésus qui va nous amener dans la victoire. Comment est-ce qu'il va le faire? Il va le faire par son esprit qui agit, qui donne à tous des capacités, des dons différents, puis tout ensemble, on marche ensemble, puis on s'en va pour qu'un jour qu'on se retrouve tous ensemble dans le royaume céleste. Le titre du message, c'était « Recherchez Dieu pour votre croissance dans le Seigneur ». C'est ça qui est le point. Il faut être à la recherche de Dieu pour grandir dans le Seigneur. Puis là, Dieu nous dit avec le dernier verset, dans Hébreux 4, 16, « Approchons-nous donc avec assurance ». On peut s'approcher de Dieu avec assurance. Tu te sens loin de Dieu peut-être un matin. Sache qu'à partir d'un matin, tu peux déjà être renouvelé dans ta relation avec Dieu et tu peux te sentir encore avec autant d'assurance que lorsque tu as accepté Jésus. Même si tu as fait, après que tu sois chrétien, tu as fait 10, 20, 50 péchés, Dieu, il sait tout ce que tu as à faire. Tu as à lui confesser, à lui avouer. Puis il dit, approchez-vous avec assurance. Il nous appelle encore à aller à lui, puis d'y faire confiance. Puis ça nous dit, tu t'approches avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Je m'approche de Dieu afin d'obtenir miséricorde. Je veux que Dieu ait pitié de moi et qu'il me pardonne. C'est quoi qui va motiver Dieu à me pardonner et à avoir pitié de moi, sinon que je m'avoue, Seigneur, je suis un homme pécheur, sois apaisé envers moi que je suis un homme pécheur. Là, il dit, c'est là que tu sors justifié devant Dieu. Tu es déclaré juste parce que tu as avoué ton état. Il le savait, mais il attend que tu lui dises. Si tu lui dis, l'assurance va renaître, puis Dieu va te renouveler dans sa présence. Puis là, tu vas obtenir miséricorde, puis tu vas trouver grâce pour être secouru dans tes besoins. Dieu va intervenir dans ta vie, puis il va la changer. Prions. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, que je ne mérite rien. Mais je sais que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si quelqu'un a fait cette prière, que ce soit la première fois ou que ce soit après 30 ans de vie chrétienne, c'est encore toujours la même prière, de demander pardon, de s'avouer pécheur, puis de confesser qu'on croit que Jésus y a payé pour la dette de nos péchés. À cause qu'on le demande, il nous pardonne, il nous renouvelle, il nous remplit encore de son esprit, on continue à marcher avec lui. Que le Seigneur vous guide et vous conduise dans votre marche en lui. Amen.
Amen.